VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, poursuite du dépouillement du vote aux élections municipales de mercredi. Les premières tendances confirment une bataille serrée dans laquelle l'ANC, le parti au pouvoir, pourrait perdre sa majorité dans plusieurs grandes villes au profit de l'ADA, l'Alliance démocratique, principale formation d'opposition. Au niveau national, plus de la moitié des bulletins ont déjà été dépouillés, plaçant le Congrès national, l'ANC, en tête avec 51,9% des voix, contre 61,9% en 2011. RDC, les ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa ont exprimé leur soutien total à Edem Kodjo, mais le facilitateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue politique, censé ouvrir la voie à des élections apaisées, est rejeté par l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi. Plus de détails avec Eddy Issango.
D'après Clément Yandoma, représentant de Brazzaville à Kinshasa, les groupes des ambassadeurs africains apportent son soutien total à Edem Kodjo pour l'organisation d'un dialogue national inclusif en RDC. Samedi, M. Kodjo a reporté sine die les démarrages des travaux préparatoires à ses assises. Dimanche, lors d'un meeting populaire à Kinshasa, l'opposant Étienne Tshisekedi a réitéré la récusation de M. Kodjo, l'accusant d'être proche du président Joseph Kabila. Une accusation rejetée par M. Kodjo qui la qualifie d'injuste. Fin novembre 2015, le président Kabila a convoqué un dialogue national pour mettre autour d'une table la majorité, l'opposition et la société civile afin de réfléchir à la tenue d'élections apaisées. L'opposition avait d'abord boudé ses pourparlers en parlant des pièges avant de donner son accord sous conditions. Mardi, l'Union européenne a exhorté les autorités congolaises et l'opposition à créer des conditions favorables au démarrage rapide de ces dialogues.
RDC, toujours 8 fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans la disparition d'un dossier lié à la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi sont sous les verrous à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Ces fonctionnaires ont été incarcérés après 15 heures d'interrogation ce mercredi. Deux greffiers ont fui avec le document porté disparu. Dans un communiqué, la cour d'appel de Lubumbashi note que le réseau au service de M. Katumbi s'active à faire disparaître tous les dossiers pénaux le concernant avec le concours de certains agents de l'ordre du judiciaire. Rappelons que l'opposant avait été condamné à 3 ans de prison pour une affaire de spoliation immobilière et qu'il est sous la menace d'un autre procès pour recrutement de mercenaires. En Mauritanie, poursuite du procès de 13 militants de l'ONG anti-esclavagiste IRA qui s'est ouvert hier à Nouakchott sous haute surveillance. Les détails avec Nanit Talani.
Le palais de justice était sous haute protection policière. Les chefs d'inculpation à l'encontre des 13 prévenus sont rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. S'ils sont déclarés coupables, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Les avocats ont nié le flagrant délit, estimant que les prévenus ont été arrêtés chez eux ou sur leur lieu de travail et non durant les émeutes. Ces militants de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste ont tous plaidé non coupables. Ils avaient été arrêtés entre fin juin et début juillet. Ils sont accusés pour leur implication présumée dans une violente manifestation suite à une tentative de déguerpissement d'un bidonville de Nouakchott.
En Guinée, un député du principal parti d'opposition a été placé en garde à vue à Conakry pour outrage au chef de l'État, Alpha Condé. L'affaire a trait à une déclaration faite lors d'une réunion politique. Jacques Aristide.
Il s'agit d'Ousmane Gawal Diallo, député de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, l'UFDG qui est la principale formation de l'opposition dirigée par l'ex-premier ministre Seydou Alain Diallo. Le député a été placé en garde à vue à la suite d'une plainte d'un procureur de Conakry au nom du chef de l'État guinéen d'après son avocat Maître Alseni Aminata Diallo. Selon le député Diallo, lors de son interrogatoire, les gendarmes lui ont reproché d'avoir attribué au président Condé la phrase « L'opposition envoie les enfants dans la rue pour qu'ils se fassent tuer » et d'avoir alors affirmé qu'une telle phrase ne pouvait être prononcée par un chef de l'État, mais par un criminel. De tels propos auraient été tenus au cours d'un d'un rassemblement de l'UFDG le 30 juillet dans la capitale guinéenne. Hier, le gouvernement a décliné tout commentaire, arguant de la poursuite de l'enquête. Le député Diallo avait en août 2015 été condamné par un tribunal de Conakry à 18 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires sur un homme d'affaires guinéen.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Mali. Les familles des présidents maliens ont été très souvent impliquées dans la gestion du pouvoir de façon directe ou indirecte. Depuis l'avènement de la démocratie dans le pays en mars 1991, les Maliens ont élu 3 présidents de la République et aucun d'entre eux n'a pu empêcher l'implication de ses proches, femmes, enfants ou autres parents dans la gestion du pouvoir. Dans le cas du président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, son fils est devenu député et le beau-père de ce dernier est président du Parlement malien, nous explique notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Lors de la présidentielle de juillet 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, président et candidat du Rassemblement pour le Mali, avait comme slogan « Le Mali d'abord, l'honneur et la dignité des Maliens ».
C'était une parole d'Ibeka pour que les gens puissent voter pour lui. Et il nous a démontré qu'il s'en fout complètement de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il a placé presque toute sa famille dans le pouvoir.
Élu comme président de la République, son slogan « Le Mali d'abord » a été transformé en « Ma famille d'abord ». Cela à cause de plusieurs nominations et élections de certains de ses enfants. Django Koulibaly.
Moi, je pense quand même que depuis 3 ans, le bilan n'est pas à hauteur dessus. Parce que il a fait la gestion du pays une affaire de famille. Et moi, je pense que ça a beaucoup impacté sur sa gestion. Sinon, Ibeka, même en tant que lui, on sait qu'il aime ce pays. Mais son problème, c'est son entourage. Et surtout, le fait qu'il a un peu impliqué sa famille dans la gestion du pays, et vraiment, ça a faussé tout son calcul, si on peut dire comme ça.
Les membres de la famille du président de la République dans les affaires n'est pas une mauvaise chose. Selon Bouguri Diarra, du parti IMRDA, membre de la majorité présidentielle.
Notre famille au pouvoir, comprenez que notre famille fait partie du Malien. Nous sommes autant Maliens que tant d'autres. Si nous avons les mêmes droits que les autres Maliens, pourquoi ne pas être là aux affaires avec d'autres Maliens? Et moi, je ne vois pas en quoi cela peut déranger ou cela peut être facteur de quoi que ce soit. S'ils n'ont pas les compétences requises, là, ça pose des soucis. Mais du moment où la famille a les mêmes compétences que tant d'autres Maliens, je pense qu'il y a lieu de voir ces questions parce qu'il ne faut pas que nous apprenions à être injustes.
La famille d'abord, c'est aussi au niveau du Parlement malien, où le fils du président de la République est député aux côtés de son beau-père, président de l'Assemblée nationale. Karim Keïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, son nom est sur toutes les lèvres à Bamako.
Aujourd'hui, moi je pense que l'honorable Karim Keïta, il faut le saluer, parce que ça a été courageux de sa part d'accepter d'aller au charbon. Aujourd'hui, il a été élu par une commune et non par son père, parce que c'est des Maliens encore qui ont voté pour lui, pour qu'il soit là où il est. C'est pas le fils du président qui nous intéresse, mais ce que Karim peut donner en tant que fils du président au peuple, c'est de cela qu'il s'agit.
La gestion du pouvoir par Ibrahim Boubacar Keïta a déçu pas mal de Maliens qui pensaient qu'il était l'homme de la situation. Gabriel Tchenou.
On ne peut pas apporter de changement avec la gestion du pouvoir avec une telle famille de pouvoir, parce qu'on ne peut pas prendre de décision. Et quand quelqu'un de la famille faille à sa mission, il est difficile de prendre des sanctions en la matière et que ce soit vraiment rigoureuse.
Depuis l'arrivée de Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, le Mali a connu plusieurs affaires de malversation et de détournement. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte et la raison est connue de tous. La présence de la famille au pouvoir a entraîné des dysfonctionnements, de l'immobilisme et de la corruption à l'intérieur des institutions maliennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes maintenant en Libye. Les forces pro-gouvernementales libyennes, fortes du soutien aérien américain, tentent de consolider leur position conquise à Sirte, bastion des djihadistes dans le pays. Pour faciliter la conquête de cette ville, le gouvernement italien s'est dit hier prêt à ouvrir ses bases militaires et son espace aérien aux bombardiers américains qui ont mené lundi et mardi 7 frappes contre les positions de l'État islamique à Sirte. Et puis au Nigeria, le leader du groupe islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a affirmé aujourd'hui dans un message audio être toujours présent malgré l'annonce de son remplacement par l'organisation État islamique auquel le groupe djihadiste nigérian a prêté allégeance. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.